Tranche de vie, une émission proposée par JF. Chers auditeurs de Tranche de vie, vous savez sans doute combien les chemins de la vie sont hasardeux et bizarres. Et aujourd'hui, j'ai avec moi une personne qui va nous parler de sa vie. Il s'agit de Gerald, qui est à la fois américain et français, et qui est venu se retirer en Dordogne à la suite d'une vie bien remplie, et également d'une vie qu'il a partagée d'une certaine façon entre la France et les États-Unis. Je le remercie de bien vouloir nous raconter sa vie et ses souvenirs. Gérald, bonjour. Merci de bien vouloir nous parler. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont vos origines?
Alors, merci Jean-François. Oh, c'est difficile de partager ma vie, mais ça commence avec mes parents, je pense. Mon père, il est à le débarquement. Et juste après, il est dans la marine. Et juste après le débarquement, son bateau sont coulés. Et il est, après la libération de Cherbourg, posté. Je pense que ça, c'est le mot français, posté en Cherbourg pour aider les alliés avec toutes les choses au le port. Et mes grands-parents sont le propriétaire d'un café, le Barf Fleurèse. Et ma mère et sa sœur sont les serveurs. Et avec beaucoup, comme c'est le temps, avec des marins, ils sont allés au le bar pour manger, et il dit toujours à ma père, oh, il y a des très jolies jeunes femmes là-bas. Et so ils sont allés une fois pour avec ses amis et regarder ma mère, et c'est un coup de cœur. Et il reste toujours au bar pour le reste de sa temps. Et après, en 45, il faut préparer pour les débarquements en Japon. Et ils sont partis aux États-Unis, mais il demandait à ma mère et ses parents si c'est possible pour lui de revenir et faire le mariage. Et à la fin de 45, il revient au la France, et ils sont mariés en Cherbourg en avril de 46. Et moi, je suis né un an après, en États-Unis.
Voilà, donc un coup de foudre à l'occasion du débarquement en Normandie, le retour du GI après la fin de la guerre, et vous naissez aux États-Unis un an plus tard. Dans quelle région des États-Unis?
Je suis né en Evansville, Indiana. C'est dans le centre, le Midwest, on dit ça. Et c'est le parc qui est très plat. C'est absolument le contre de la Dordogne. Toutes les rues sont plates pas beaucoup de forêts. C'est comme ça.
C'est déjà ce qu'on appelle les grandes plaines.
Oui, exact.
Alors, ensuite, votre vie va se dérouler aux États-Unis. Mais est-ce que vous allez conserver, par votre maman, des contacts avec la France?
Ma tante m'a dit, ma tante américaine m'a dit que ma mère a parlé à moi tout le temps en français quand j'étais gamin. Et c'est à sa genou que j'apprends la langue française. Elle parle tout le temps de sa vie, de la vie française, de la famille. Elle me donnait beaucoup de l'idée d'être français aussi d'américain. Et ça, c'est différent que beaucoup de les immigrants en États-Unis. Ils veulent d'être tout le temps américain. Mais moi, je suis élevé avec l'idée, je suis français aussi. Je suis dans le livre de famille de Potter en Normandie et toutes les autres choses. So, aussi, quand j'étais trois, Nous sommes revenus en France avec et visité avec mes grands-parents pour 5 mois. Et quand je rentre en États-Unis, mon père il dit, tu ne parles pas encore anglais? Et so, un peu par un peu, il parle tout le temps en anglais, ma mère. Et so, je perds un peu ma français.
Vous avez dit que vous étiez allé en France quand vous aviez 3 ans?
3 ans, en 1950.
Ça, c'était la première fois?
Oui.
C'était votre première visite? Est-ce que vous avez conservé des souvenirs ou est-ce que vous avez des souvenirs d'une autre fois où vous soyez allé en France un petit peu plus tard et des souvenirs qui vous ont marqué, que vous avez conservés?
Oui, et ma grand-mère aussi, elle vient aux États-Unis en 55, mais avec ma mère, nous sommes revenus en 57. Et ça, c'est parce qu'à 10 ans, à 7 ans, j'ai beaucoup de souvenirs. Il y a une qui est très très importante de moi, c'est la communion d'un cousin, une cousine, et il y a une grande fête familiale pour toute la journée après, et ça est avec un menu et très long, et on mange toujours toute la journée, et ça reste avec moi, ça donne moi une idée de la vie française en familiale, le bonne nourriture, le reste à table, parler, chanter, dire des blagues, et ça reste avec moi, et je pense que ça c'est une idée de la France, la vie française qui reste avec moi et peut-être me tirer ici.
Alors ça c'est un témoignage extrêmement intéressant. Donc à l'occasion de la communion de cette cousine, vous avez découvert les grandes réunions familiales avec les grands repas de famille. Et est-ce que vous pouvez Est-ce que vous pouvez, vous avez différents documents, vous avez des photos là, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, est-ce que vous pouvez nous donner une idée du menu de, ou alors moi je vais lire le menu là, du déjeuner et du dîner de la cousine Monique de Gérald. Alors le déjeuner, variété, bon appétit, je pense que c'était un petit apéritif, pommes sautées, ailes brisées, caprice du Nondé, à votre choix, riz impérial, corbeille de fruits, mignardise, vin et café trois couleurs. Et puis ensuite, on passe au dîner, à la santé de la communauté, potage perlé, bœuf sauce tomate, petite bande verte, gigot de présalé, boulevard des escargots, plateau de fromage, pyramide du souvenir, coupe de fruits, iceberg varié, gâteau sec, vin fin, Monsieur Lenoir et ses associés, et liqueur. Donc après ça, je pense que Gérald devait avoir envie d'aller se coucher.
Oui, ça, et aussi c'est intéressant beaucoup, moi, de faire la cuisine. Ça, c'est un de mon bon intérêt maintenant. Après l'université, je commence de faire la cuisine chaque soirée pour ma femme et moi. Et c'est des choses que j'aime bien, toute la nourriture de la région.
Votre maman aussi vous a un petit peu initié à la cuisine française?
Oui, au début, elle ne fait pas beaucoup parce que c'est sa mère, ma grand-mère qui fait la cuisine tout le temps dans le restaurant. Mais après, bien sûr, elle commence d'avoir des fêtes. Aussi, elle a fait la connaissance de 8 autres femmes françaises qui ont fait leur mariage avec les soldats américains qui aussi habitent dans Evansville. So, chaque week-end, un de les soirs, nous sommes allés à un ou l'autre de les femmes et avoir un bon dîner. Les hommes restent dans le salon et parlent de la guerre et les femmes sont dans la cuisine avec les enfants. Moi, et j'écoute et regarde les femmes faire le grand cuisine. So, ça, c'est un part de ma vie. Chaque fête, c'est fait par ma maman chez nous.
Et vous avez gardé également, alors voilà comment se conservent, se maintiennent les traditions, vous avez conservé des relations avec vos grands-parents, avec la famille de votre maman, jusqu'à la disparition de vos grands-parents?
Oui, ma mère, elle vient deux ou trois fois en États-Unis, pour rester après mon grand-père est décédé en 61. Elle vient une autre fois. Mais maman est décédée en 73 de cancer. Et après ça, je perds un petit peu mon connexion. Mais il y a une femme qui habite en Cherbourg maintenant qui est comme un petit sœur de ma mère. Et c'est elle qui me connectait un petit peu avec la famille. Et quand Paula et moi, nous fait notre première vacances en France en 1995, c'est elle qui fait toute la connexion avec ma famille. Ça ouvrir la porte de ma famille encore française. Et maintenant, je suis très proche. J'ai voyagé souvent en Normandie pour visite avec mes cousins. J'ai un très, très proche cousin en Paris aussi, un jeune homme que je suis. C'est comme un petit frère.
Donc en 95, après la disparition de votre maman, vous avez renoué les liens d'une certaine façon grâce à cette parente éloignée avec votre famille maternelle. Vous avez évoqué le décès de votre maman avant de passer à la manière dont vous avez occupé votre vie d'adulte. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques mots des études que vous avez faites à l'université?
Oh, je suis en éducation libérale, on dit ça en États-Unis. C'est histoire que j'aime bien, et surtout ma vie. Mon père était ingénieur après et nous avons déménagé surtout les États-Unis et j'aime bien l'histoire des États-Unis parce que j'habitais dans tous les coins. En université, j'aime bien d'étudier toute l'histoire du monde, de la grecque, l'ancienne histoire, mais aussi l'histoire moderne. Mais c'est pour préparer pour une éducation de connaître toutes les choses de politique et philosophe et des choses comme ça.
Quand vous dites éducation, vous voulez dire que vous vous destinez à une carrière d'enseignant?
Je ne connais pas qu'est-ce que je faire, mais à la fin, je trouve une position avec la Société contre le cancer américaine.
Alors, justement, vous nous avez dit que votre maman était décédée d'un cancer. Qu'est-ce qui vous a conduit à travailler avec la Société américaine contre les cancers, American Cancer Society, qui est à peu près l'équivalent de la Ligue contre le cancer en France et qui est une association extrêmement importante. Qu'est-ce qui vous a conduit, qu'est-ce qui vous a amené à travailler pratiquement toute votre vie active avec l'American Cancer Society?
C'est les années 60 et 70 en États-Unis. Et ça, c'est le temps que le jeune comme moi veut avoir un vie un peu, pas pour marchandise, ça c'est typique des États-Unis. On veut d'avoir un vie que je donne un peu aux sociétés. Et ma mère est à sa cancer de sein première en 1968. Après, je parti de l'université, je suis un professeur pour les élèves pour 2 ans. Mais je cherche pour des choses pour moi et j'ai la chance de commencer avec l'American Cancer Society pour organiser les communautés. Et surtout ma vie, quand j'étais jeune, j'aime bien d'être un bénévole. Je suis un membre de beaucoup de différentes associations. J'ai le président de deux ou trois associations en université et je trouve de travailler avec des bénévoles pour une bonne cause comme contre le cancer qui est personnel aussi. Mon grand-père, il est décédé de cancer de poumon parce qu'il fume beaucoup. Ça, c'est dans ma tête tout le temps. C'est travailler, mais c'est travailler pour une bonne cause. Et après, j'ai la chance de faire des choses en éducation de santé publique. Et en 1966, 76, j'ai la chance d'aller au New York City pour le headquarters national de la Society contre le cancer pour organiser les programmes pour santé pour les jeunes. So, pour 8 ans, je travaillais dans la santé publique, organise des films, des livres pour les professeurs d'utiliser avec leurs enfants, contre fumer, bien sûr, mais pour toute la santé. Et après ça, encore, j'ai la chance de faire des choses de planification et stratégie pour la société. Et pour 20 ans après, je travaillais pour le comité de directeurs et pour le chef de l'organisation pour organiser les grands plans.
Donc vous avez occupé diverses positions, vous avez exercé diverses responsabilités au sein de la Société américaine contre le cancer, et vous avez été conduit dans cette voie professionnelle à la fois par ce dont vous aviez été témoin dans votre famille, des ravages du cancer, mais également par une sorte d'altruisme qui vous poussait un petit peu à ça, comme vous l'avez dit, dans l'air du temps, hein, à la fin des années 60, des années 70. Et alors, en dehors de ces occupations, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit que vous étiez engagé dans plusieurs associations. Quels sont vos loisirs? Quels sont vos passions en dehors de ce travail que vous avez effectué pour l'American Cancer Society?
Mais ça prenait beaucoup de temps, je trouve. Je n'avais pas beaucoup de chance pour les autres choses, mais chaque soir, quand j'arrive après travailler, c'est moi qui fais la cuisine. Et ça, c'est une grande différence aller aux meetings et faire les emails et organiser des conférences. Chaque soir, j'arrive à la maison, je regarde dans le frigo, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce que je fais pour la soirée, un peu de vin, écouter un peu de jazz sur mon phonographe. Et ça, c'est une de mes premières passions. Mais aussi, la seule chose que je manque ici en France, c'est le baseball. Et moi, je suis un bon fan. Je ne sais pas le mot en français, mais j'aime bien de regarder le sport de moteur, parce que je suis né en Indiana, sur l'Indianapolis 500. Maintenant, ça s'est transféré au Formule 1. Et aussi, je n'avais pas du baseball, mais j'ai le rugby. Et je suis un très gros fan. J'y vais souvent au Bug pour notre équipe de Bug pour regarder le rugby. So, c'est le sport, la cuisine et aussi la musique.
Alors, la cuisine, vous la présentez comme à la fois comme une détente et quelque chose aussi qui vous pousse vers les autres, puisque vous préparez quelque chose avec amour pour en faire profiter les autres et puis pour que vous en profitiez vous-même. Donc, les passions, chers auditeurs, vous avez entendu, les passions de Gérald, c'est le baseball, c'est l'automobile. Et puis, c'est le rugby, dans lequel, alors pour le baseball, il y a peu de chances qu'il satisfasse sa passion en France, mais pour l'automobile et puis accessoirement pour le rugby, quand même, c'est possible. Maintenant, est-ce que Gérard, vous pouvez nous dire, vous avez parlé du bug, vous pouvez nous dire comment et pourquoi vous vous êtes retiré, puisque maintenant vous êtes un retraité, comment vous êtes retiré en Dordogne?
Ça, c'est une question que ma belle-mère me demandait souvent. Pourquoi vous avez apporté ma femme, ma fille en France? Mais c'est un peu par hasard, mais un peu par une journée de ma vie. Ma mère est décédée, comme j'ai dit, en 73, et je perds ma vie. Mais la première fois nous vient en France, nous sommes venus en France, c'est en 1995. Et Paula et moi, on fait un tour de un mois sur toute la France. Et par hasard, j'aime bien, comme j'ai dit, j'aime bien le cuisine et un peu de le vin de la France. Et j'aime le vin de Cahors. Et so, quand je fais le plan pour notre route, je veux de rester 2-3 jours dans la région de Cahors, ça là. Et bien sûr, dans Dordogne. Et c'est pour ça qu'on passe par ici. Et chaque soir, je fais un journal. Qu'est-ce que j'ai vu. Et oui, je suis très confortable en toute la France, mais quand je passe par ici, j'ai écrit dans mon journal en avril, je pense c'est le 17, après nous avons passé par ça là. Ah, cette région, c'est très jolie et j'aime la couleur de la pierre, j'aime la colline, la forêt. C'est contre Indiana, c'est pas plat. Et ça reste dans ma tête. So, nous sommes revenus encore en 2000 pour louer une maison en Limeuil. Et regarde, c'est possible, peut-être. Je commence à réfléchir pour faire mon retraite. Et je regarde, peut-être c'est une idée ici. Et on commence à regarder les maisons. Et plus en plus, on revient d'ici. C'est normal peut-être d'aller en Normandie avec beaucoup de cousins, mais Normandie, c'est la couleur, c'est gris, la température, le temps, c'est pas assez beau qu'ici. So, plus en plus, on aime bien la vie ici, la nourriture, et je trouve à notre maison en 2002, par hasard, acheter la maison. Le madame dit oui, mais après nous sommes rentrés aux États-Unis, il dit non. Wow. So, on revient en 2000, ça c'est en 2001, pardon. Et en 2002, on revient encore, regarder encore ici, c'est toujours ici. Et j'appelle la madame une deuxième fois, est-ce que vous avez réfléchi un petit peu? Il dit peut-être. So, j'achète la maison une deuxième fois. So, c'est vraiment une maison pour nous. Et plus en plus, on vient ici pour les vacances. Et à la fin, en 2005-2006, on fait un mois, deux mois ici. Et quand j'ai la chance de faire mon retraite un peu pour un Américain, un peu jeune, je parlais avec Paula et dit pourquoi pas d'habiter. So, nous avons déménagé. Toute notre chose ici, et ça c'est en 2007, et je n'ai pas eu aucune regret. C'est pas un jour, je ne dis pas, oh, je manque des choses en États-Unis, l'exception de baseball.
La boucle était bouclée, vous êtes revenu en France, vous êtes revenu dans ce qui est aussi votre patrie, et ça c'est formidable. Mais je voudrais vous poser une question indiscrète maintenant. Là, vous avez trouvé quand même en Dordogne. Un endroit où on aime la bonne cuisine et où il y a quand même de bonnes choses. Mais est-ce que vous continuez à utiliser beaucoup la crème dans votre cuisine?
Pas beaucoup de crème, mais il y a un bon IU de mon fermier j'achète mon chose, mais pas beaucoup de crème. Le beurre, oui. Et camembert, bien sûr.
Ah bon, d'accord. Donc vous n'avez pas tout à fait renié vos origines normandes.
Non.
Gérald, merci beaucoup. Merci de tout ce que vous nous avez apporté, d'optimisme, de joie de vivre quand même, malgré une vie qui a été difficile et qui a été partagée d'une manière très équitable entre vos deux pays, votre pays d'adoption, les États-Unis, et puis votre pays d'origine maternelle, la France. Merci beaucoup, Gérald.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.